VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anna Butson. Au sommaire en ce jeudi 2 avril 2015.
Nigeria, le président Barack Obama a exhorté à la fois le gagnant et le perdant des élections présidentielles à œuvrer de concert pour unifier le pays.
En République centrafricaine, première comparution mercredi du ministre du Tourisme, Romaric Vomitiade.
Le gynécologue congolais Denis Mukwege et son combat contre les sévices sexuels en République démocratique du Congo ont fait l'objet d'un documentaire.
C'était aussi montrer un docteur africain exemplaire qui, depuis 15 ans, essaye de réparer ces femmes et de les réparer dans tous les sens du terme, de les réparer, comme on dit en anglais, healer, comme un guérisseur.
On entendra le réalisateur belge Thierry Michel.
Le projet du président burundais Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat suscite de vives tensions dans le pays.
Nucléaire iranien, les discussions marathon se poursuivent à Genève.
Et ici aux États-Unis, la Californie adopte de nouvelles mesures pour lutter contre une sécheresse sans précédent.
La directive du gouverneur Jerry Brown fixe comme objectif une réduction de 25% de la consommation du précieux liquide sur les 9 prochains mois.
Tous les détails avec Jean-Roger Bion, mais tout d'abord le journal.
Le président Barack Obama a exhorté à la fois le gagnant et le perdant des élections présidentielles au Nigeria à œuvrer de concert pour unifier le pays. Monsieur Obama a appelé mercredi le président élu, Muhammadu Buhari, ainsi que le président sortant, Goodluck Jonathan. Il a félicité Monsieur Buhari pour sa victoire et Monsieur Jonathan pour avoir concédé pacifiquement l'élection.
Le président Obama a souligné que les États-Unis continueront à soutenir le Nigeria, confronté à de nombreux défis, dont la menace posée par le groupe extrémiste Boko Haram. Monsieur Buhari a promis que son gouvernement n'épargnerait aucun effort pour vaincre Boko Haram.
Les peines de mort infligées à des soldats accusés de complicité dans la tentative de coup d'État en Gambie en décembre 2014 sont une violation du droit à la vie et à un procès juste et équitable. C'est ce qu'a déclaré hier l'ONG de défense des droits humains Amnesty International. 3 militaires ont été condamnés à mort et 3 autres à la réclusion à perpétuité suite à un procès à huis clos lundi. Amnesty International estime que la situation des droits humains demeure catastrophique en Gambie.
En République centrafricaine, première comparution mercredi du ministre du Tourisme, Romaric Vomitiade, devant le tribunal de grande instance de Bangui. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs CFA contre le membre du gouvernement en détention préventive depuis plusieurs semaines. Henri Francisque.
Le réquisitoire du procureur est tombé au terme d'un procès qui a duré toute la journée. Au moins 6 témoins, dont un à charge, ont été appelés à la barre. Et le débat a été riche en contradictions. Romaric Vomitiade est poursuivi pour attentat à la pudeur, consommé avec violence, acte de pédophilie et empêchement à l'émancipation de la jeune fille. Le ministre a plaidé non coupable et sa défense a parlé d'un pur montage pour nuire à sa carrière politique. 5 ans d'emprisonnement ferme et 500 000 francs CFA d'amende requis par le procureur n'ont pas satisfait l'avocat de la jeune fille, qui lui réclame 20 millions d'amende. Le verdict est attendu le 8 avril prochain. Romaric Vomitiade est accusé d'avoir abusé fin février d'une fille de moins de 18 ans alors qu'il était à la tête d'une mission de consultation populaire à Yaloké, localité située à quelque 220 km au nord-ouest de Bangui.
Le projet du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue en juin, suscite de vives tensions dans le pays et dans la sous-région. La semaine dernière, 79 membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, l'ont interpellé dans une missive, l'invitant à ne pas se représenter.
L'opposition burundaise, appuyée par les organisations de la société civile, a menacé de descendre dans la rue si le président est désigné par son parti comme candidat à un troisième mandat.
Des hommes armés ont attaqué l'université de Garissa dans le nord-est du Kenya. Selon le correspondant de la Voix de l'Amérique sur place, des explosions et coups de feu ont retenti. Des soldats kényans sont déployés sur les lieux. La chaîne de télévision CNN, qui cite la Croix-Rouge, évoque une trentaine de blessés et jusqu'à 8 morts. Ces chiffres restent à confirmer.
Et puis le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a exhorté les membres de la diaspora kényane à aider le tourisme chez eux, en rassurant les gens quant à la sécurité au Kenya, malgré une série d'attaques perpétrées par des extrémistes. Il a également fustigé les mises en garde des pays occidentaux contre les voyages dans son pays. Michel Joseph.
Le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par les attentats du groupe islamiste somalien Al-Shabaab, notamment le siège du centre commercial de Westgate à Nairobi, qui a fait 67 morts en 2013, ainsi que les attaques sanglantes près de la frontière kényane. Intervenant à une conférence de la diaspora kényane sur l'investissement, le président Kenyatta a dit que les Kenyans qui vivent à l'étranger devraient être les premiers diplomates de leur pays, en faisant du lobbying pour ses parcs safaris et plages sur l'océan Indien. Concernant les communiqués invitant les voyageurs à faire attention au Kenya ou à éviter ce pays à cause des risques d'actes terroristes, le président Uhuru Kenyatta a dit ne pas avoir entendu d'avis de ce genre au sujet de Paris, qui a pourtant été récemment victime d'attaques terroristes. Il fait allusion ici aux attentats de janvier contre Charlie Hebdo et une épicerie juive dans la capitale française et qui avait fait 17 morts. Pour le gouvernement de Nairobi, de telles mises en garde n'ont fait qu'enhardir les terroristes et ne reflètent pas ses succès dans la prévention de tels attentats.
Selon les Instituts nationaux de la santé aux États-Unis et l'Institut de recherche de l'armée Walter Reed, le vaccin expérimental VSV-Zebov contre le virus Ebola a donné des résultats très positifs. Ce vaccin, qui a été testé ces derniers mois par les hôpitaux universitaires de Genève, a engendré une réponse immunitaire chez les quelques 150 volontaires à qui il a été injecté.
Ces personnes ont produit des anticorps capables de neutraliser le virus, a expliqué la professeure Claire-Anne Sigrist, responsable du Centre de vaccinologie des hôpitaux universitaires de Genève. En revanche, les chercheurs ignorent encore si le vaccin constitue une protection pour l'être humain. Des études d'efficacité sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé doivent maintenant être menées en Afrique, dans les pays où sévit encore le virus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry va rester en Suisse au moins un jour de plus pour continuer à négocier avec l'Iran sur l'avenir du programme nucléaire de Téhéran. Nous continuons à faire des progrès, a déclaré la porte-parole du département d'État Murray Harf à Lausanne, en reconnaissant qu'il n'y a toujours pas d'accord.
Les négociateurs de l'Iran et des six grandes puissances de la planète ont discuté toute la journée mercredi pour combler les lacunes restantes dans l'accord cadre visant à freiner le programme nucléaire de l'Iran en échange d'un allègement des sanctions internationales contre Téhéran. Les deux parties étaient censées se mettre d'accord d'ici à la date butoir du 31 mars, mais elles ont convenu de poursuivre leurs discussions.
Des dizaines de réfugiés fuyant le Yémen en guerre n'ont pas trouvé de meilleure destination que les côtes de la Somalie. Depuis plus de deux décennies, ce sont plutôt les Somaliens qui traversaient le golfe d'Aden vers le Yémen pour fuir le chaos dans leur pays. Bagassi Koura.
Selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés cité par l'AFP, les premiers groupes de Yéménites fuyant le conflit dans leur pays sont arrivés sur les côtes nord de la Somalie, dans la région du Somaliland, autoproclamée indépendante depuis 1991, et celle très largement autonome du Puntland. Ces deux régions ont été largement épargnées par la guerre civile qui a plongé le centre et le sud de la Somalie dans le chaos depuis la chute en 1991 de l'autocrate Siad Barre. Le HCR en Somalie a indiqué avoir récupéré samedi 32 réfugiés arrivés dans le port de Berbera dans le Somaliland. D'autres réfugiés ont été signalés arrivant sur les côtes de Djibouti, frontalier du Somaliland. Selon l'AFP, les agences humanitaires ont mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire au Yémen, pays qui héberge plus de 238 000 réfugiés somaliens, selon le HCR.
Ici aux États-Unis, la Californie est victime d'une sécheresse sans précédent, une situation qui a contraint son gouverneur à ordonner une réduction dramatique de l'utilisation de l'eau dans l'ensemble de l'État. Jean-Roger Bion.
La directive du gouverneur Jerry Brown fixe comme objectif une réduction de 25% de la consommation du précieux liquide sur les 9 prochains mois. C'est dans une station de ski des montagnes de la Sierra Nevada que M. Brown a lancé son appel. La raison, c'est la fonte annuelle des neiges de ces montagnes qui alimente les cours d'eau et nappes souterraines de la Californie. Or, cette année, il y a très peu neigé,
Nous nous tenons sur la terre ferme là où nous serions en temps normal, sur 1,50 m de neige, a fait remarquer le gouverneur Brown hier. Pour parvenir aux économies d'eau nécessaires, le gouverneur Brown a ordonné l'introduction dans les jardins et parcs publics de la Californie d'espèces végétales plus résistantes à la sécheresse. Les Californiens sont, pour leur part, encouragés à remplacer leurs appareils électroménagers par des modèles plus économes en eau. Par ailleurs, le gouverneur Brown a introduit en procédure d'urgence des mesures devant injecter $1 milliard dans des projets hydraulique et d'appui aux communautés mises en difficulté par la sécheresse.
On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Jean-Roger Bion.
L'Office congolais de contrôle a encore brûlé des produits avariés à Lofou. Au total, 2 tonnes de produits défectueux ont été détruits. Théophile Soulubanzi est le chef d'antenne de l'Office congolais de contrôle à Lukala.
Il y a 1900 kilos de soupe natolo, de liqueurs en sachet, interdits par le gouvernement. Nous sommes là pour sécuriser la population congolaise, en dépit de la répétitivité des infractions que les acheteurs, que les agents du marché posent.
Théophile Soulubanzi, chef d'antenne de l'Office congolais de contrôle à Lukala, au micro de nos confrères de Top Congo FM. Le gouvernement du Mali et l'Agence spécialisée des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO, ont annoncé mercredi un programme de relance de la production agricole dans le nord du pays, gravement affecté par les attaques de groupes armés. Un projet de 5 millions de dollars de la FAO, dont le siège est à Rome, doit financer les moyens de production des familles dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti, dans le nord du pays, a indiqué mercredi l'organisation dans un communiqué. Et une nouvelle application pour smartphone a été lancée mercredi en Afrique du Sud pour encourager les touristes à emprunter les pas de Nelson Mandela, 25 ans après sa sortie de prison. L'application appelée Madiba's Journey, le nom de clan de Mandela affectueusement repris par la plupart des Sud-Africains, est pour l'instant téléchargeable gratuitement en anglais pour des appareils fonctionnant sous iOS, Apple et Android.
Et maintenant, les sports en compagnie de Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Camille.
Alors, il y a du rififi dans le football béninois?
Oui, dans l'affaire du retrait de l'agrément à la Fédération béninoise de football, le ministre béninois des Sports s'est expliqué devant la presse. Les explications avec Élisée Mpatine.
L'une des conséquences de ce retrait, c'est la suspension des championnats de Ligue 1 et 2, comme nous l'explique Safiou Afo, ministre de la Jeunesse des Sports du Bénin.
La suspension du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est une nécessité pour des raisons de sécurisation, pour éviter des troubles, parce qu'il y en a qui sont pour la décision, il y en a qui sont contre. S'ils vont s'affronter sur le terrain, c'est la responsabilité de l'État.
La suite, c'est également une feuille de route, un plan, sans doute pour sortir le football béninois de cette situation. Farouk Soumanou, président du Fonds d'aide pour le sport.
Le ministre de la Jeunesse va rencontrer tous les acteurs de toutes les tendances, de tous les camps. Après cela, le ministre procédera à l'installation du comité national de normalisation. Et c'est ce comité qui aura un cahier des charges et un délai bien déterminé pour mettre les différentes commissions techniques en place afin de faire des propositions concrètes.
La réaction du comité de la Fédération béninoise de football est attendue. Boycon, Élisée Mpati, La Voix de l'Amérique.
Le président de la Fédération internationale de cricket a démissionné.
Oui, Mustapha Kamal a empêché de remettre le trophée de vainqueur de la Coupe du Monde à l'Australie après avoir affirmé qu'un match avait été arrangé, a démissionné donc ce mercredi. Selon l'AFP, Kamal a affirmé avoir reçu l'ordre de s'excuser pour avoir déclaré que le quart de finale du mondial remporté par l'Inde aux dépens du Bangladesh avait été arrangé. Ces allégations ont été contestées par David Richardson, le chef de l'exécutif au sein de l'ICC, la Fédération internationale de cricket. Et pour terminer, Camille, quelques résultats du championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA.
Toronto a expédié Minnesota 113-99, une mauvaise soirée pour Sacramento, battu par Houston 115-111. Brooklyn a eu raison de New York, mais par seulement un panier, le score 198. Boston, par contre, n'a pas eu à se fatiguer pour triompher d'Indiana 187. Défaite humiliante pour Detroit 102-78 face à Charlotte. Les Washington Wizards se sont bien débrouillés, battant Philadelphie 106-93. Les Spurs de Tony Parker ont rossé Orlando 103-91. Un match très serré entre Dallas et Oklahoma City qui s'est traduit par la victoire de Dallas 135-131. Et Milwaukee s'est débattu face à Chicago, l'emportant de justesse par 95-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grosdidier avec vous pour présenter les dossiers du jour. On commence avec le Bénin où la mise en vigueur du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO depuis le début de l'année 2015 impose un renchérissement des coûts de cession des produits importés. Mais que fait l'État béninois pour permettre à l'économie béninoise d'en tirer le meilleur profit et adoucir la pilule aux opérateurs économiques qui devront faire face à de nouvelles charges? Eh bien, la réponse à travers ce reportage de Peggy Ludovic Dagva de Cotonou.
L'économie béninoise se doit désormais de s'affranchir de son indolence légendaire pour devenir compétitive face aux nouvelles réformes entreprises sur le marché sous-régional, dont la plus grande est la mise en vigueur depuis janvier 2015 du tarif extérieur commun TEC dans l'espace CEDEAO. Conscient de l'enjeu, l'État béninois a déjà pris certaines dispositions pour y faire face, nous dit ici le directeur général du développement industriel au ministère béninois du commerce, Eddy Santos.
Le Bénin a pris ses dispositions pour commencer par faire de la sensibilisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État n'est plus du secteur productif aujourd'hui. Ce sont les privés qui produisent. Donc le rôle de l'État, c'est de mettre à disposition les conditions pour que le secteur productif puisse produire. Donc l'élément qu'on a mis en premier, c'était déjà de sensibiliser le secteur productif pour que les gens sachent. Ceux qui étaient par exemple dans l'activité de l'importation du yaourt, qui sachent qu'à partir du 1er janvier 2015, ce serait plus bénéfique pour eux de fabriquer le yaourt sur place que d'en importer. Parce que ça sera plus compétitif ce qui est importé d'ailleurs.
Avec la nouvelle donne, les droits de douane connaîtront une augmentation de 35% pour l'importation de certains produits comme la volaille, les pommes de terre et les produits textiles, ce qui nécessitera une augmentation de la production locale dans ces secteurs au niveau des pays de la CEDEAO. Afin d'éviter de continuer à les importer, le Bénin peut-il y faire face? Réponse du directeur général du développement industriel, Eddy Santos.
Le Bénin est totalement capable d'aller en concurrence sur le marché régional. Et là, je le dis d'autant plus que nous avons toujours sous-estimé nos possibilités et nous pensons à tort que nous n'avons pas les potentialités d'aller en concurrence avec des pays que nous traitons comme des pays qui sont leaders dans notre communauté. C'est pas vrai. Je peux vous dire par exemple qu'à la date d'aujourd'hui, malgré tout le mal dont on dit de notre industrie, le Bénin n'est pas le plus mauvais exportateur à travers le schéma de libéralisation des échanges. C'est que le Bénin identifie les produits pour lesquels il a un bon potentiel et que le secteur productif investisse sur ces produits-là.
Maurice Bemenou est opérateur économique béninois. Il n'est pas d'accord avec la façon dont l'État gère ce dossier.
Vous ne pouvez pas faire le bonnet de quelqu'un contre sa volonté. Qu'il y a aujourd'hui le regroupement des opérateurs économiques en dehors de la Chambre du commerce et d'industrie, il y a le Conseil national du patronat. Donc je souhaiterais vivement que les regroupements professionnels des opérateurs économiques, les structures fêtières comme la CCB, comme et le patronat puissent être impliqués et qu'il y ait donc des délégués de ces structures dans le comité de management et de suivi donc de ces réformes pour que dès que les intérêts des jeunes seraient donc menacés, ils puissent donc revenir à la charge pour redresser le tir.
L'avènement du TEC ouvre la voie à la cherté des produits importés. Une autre paire de manches à régler pour les autorités de tutelle. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Camille Grosdidier avec vous. Le gynécologue congolais Denis Mukwege et son combat contre le viol et les exactions sexuelles en République démocratique du Congo ont fait l'objet d'un film. La sortie de ce documentaire belge réalisé par Thierry Michel et Colette Braekman est prévue ce mois-ci. Il s'appelle « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate ». Thierry Michel est revenu sur les raisons de ce film au micro de Nicolas Pinault.
Oh, c'était d'abord un film qui me semblait indispensable parce qu'il allait témoigner non seulement de la cause de ces femmes violées avec extrême violence, donc de ces femmes humiliées, parfois massacrées en République démocratique du Congo, dans la partie est du pays. Mais c'était aussi montrer un docteur africain exemplaire qui, depuis 15 ans, essaye de réparer ces femmes et de les réparer dans tous les sens du terme, de les réparer, comme on dit en anglais, healer, comme un guérisseur. Il doit réparer les corps, réparer les âmes et leur donner la capacité de renaître à elles-mêmes, c'est-à-dire de faire leur travail de résilience ni pour certains d'ailleurs de devenir des activistes. Voilà, c'était me semblait que l'Afrique avait besoin qu'on parle à la fois de ce qui est tragique, mais aussi de cette capacité de certains Africains d'être des modèles, des exemples, des héros, et de fédérer toutes des forces comme ça de communautés entières de femmes pour un changement social.
Vos films ont souvent suscité des réactions négatives de la part des autorités congolaises. Cette fois-ci, le tournage a-t-il été plus facile ?
Oui, absolument. Alors que j'avais été interdit, arrêté, expulsé, et que j'avais été même traîné en justice en Europe. On sait que j'avais gagné à cause d'un de mes derniers films sur l'assassinat de Floribert Chebeya, un grand militant de la cause des droits de l'homme. Cette fois-ci, j'ai eu toute facilité pour faire ce documentaire. Je remercie les autorités qui m'ont assuré cette situation de confort de travail.
On en parle souvent chaque année. Est-ce que, selon vous, Denis Mukwege mérite le prix Nobel de la paix ?
Je pense, oui. Si on pense que l'Afrique a droit aussi à être nobelisable, sûrement, parce qu'en plus, non seulement un homme intègre, un homme de conviction, c'est un homme extrêmement courageux. Et contrairement à bien d'autres hautes personnalités, on va dire, d'activistes de par le monde qui ont dû choisir l'exil, lui a été victime de tentatives d'assassinat. Il a perdu un de ses plus proches dans une de ses tentatives. Il a encore été très récemment victime d'une autre tentative et il tient contre vent et marée. Il veut rester au Congo, il veut continuer à soigner ces femmes auxquelles il a consacré sa vie et ne pas partir pour un exil doré.
Le réalisateur belge Thierry Michel, rappelons que l'action du docteur Denis Mukwege avait déjà fait l'objet d'un film Congo, un médecin pour sauver les femmes, film documentaire sénégalais réalisé par Angèle Diabang, sorti en 2014.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Camille Grodidier, pour Le Monde aujourd'hui, le poivron est la principale production agricole de la région de Diffa au Niger. Mais la milice djihadiste Boko Haram allait se servir chez les producteurs pour financer sa guérilla et aujourd'hui, les autorités ont interdit le commerce du poivron dans la région. Producteurs et vendeurs ne savent plus où donner de la tête. Idriss Fall s'est rendu au marché de Diffa pour recueillir l'avis de deux vendeurs. On écoute Maloussou Barma et Boni Bouama.
Tout le monde, les gens qui vendent les poivrons, ils ont un problème. Parce que c'est les poivrons seulement, ils vendent. Ils achètent quelque chose à manger à la maison, quoi. Maintenant, les poivrons, ils sont arrêtés. Les gens, ils se sont dit, ne peuvent pas vendre. C'est pour cela, tous les gens, ils ont un problème maintenant.
Comment est-ce que vous faites pour garder le poivron, par exemple, pour qu'il ne se gâte pas?
Maintenant, on dépose là-bas, au village là-bas, on a déposé là où on a acheté des poivrons, parce qu'on a dit, ne vient pas même à Diffa. C'est pour cela, on a mis au plastique, on a déposé là-bas.
À peu près, vous avez perdu combien d'argent depuis?
Trop. Beaucoup. Avant, on vendait le poivron à 8000 naira. Mais maintenant, ça devient à 5000 naira. C'est comme ça, on a perdu 3000 naira.
Avec 5000 naira, vous ne pouvez pas les vendre.
Non, on vend si tu es tellement précis, quoi. Tu vas vendre pour acheter quelque chose à manger.
Le monde, je dis, je dis,
le marché de poivrons, vous avez vu de vous-même vu que depuis qu'on a interdit la vente, la commercialisation du poivron dans la région de Diffa, voilà, vous avez vu, il y en a plein de poivrons au marché. Et ceux qui ont amené les produits n'ont pas pu vendre pour vraiment acheter de quoi manger. Mais ils attendent toujours l'autorité pour qu'on lui dise d'amener aujourd'hui ou demain. Ils sont toujours dans l'attente. Mais ok pour que reprendre la commercialisation.
Mais vous reprendre la commercialisation vers où?
Le poivron, au-delà du Nigeria, on amène ça à Zander, on amène ça à Maradi, même à Niamey, la capitale, on envoie du poivron pour vendre.
Donc ils attendent quoi?
On attend les autorités comme ceux qui ont pris la décision. Ils savent que la région de Diffa, c'est une région de production de poivrons. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui attendent, qui souffrent, qui vivent le calvaire. Même dans le village, ils nous demandent à quand l'autorité va donner les ordres. On attend voir. Mais vraiment, il faut qu'ils voient cette situation et nous laissent vraiment faire notre commercialisation du poivron.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi, tout sur le verdict des urnes au Nigeria, analyse et commentaires de nos invités, un scrutin d'ores et déjà jugé démocratique par l'Union africaine, mais des interférences politiques ont quand même été notées, vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum ce jeudi à 19h TV.
Camille Grosdidier, dans les négociations en vue d'un accord cadre sur le nucléaire iranien, les négociateurs ont eu à beaucoup parler de centrifugeuses, d'uranium enrichi ou encore de réacteurs à eau lourde. Alors, que signifient tous ces termes et quelle est leur importance? Quelques éléments de réponse avec Lionel Gaïma.
L'uranium se présente sous deux formes ou isotopes, l'U-235 et l'U-238 qui est un peu plus lourd. La réaction consiste à casser des noyaux lourds comme ceux de l'uranium-235 ou du plutonium-239 sous l'impact d'un neutron. Barry Berkman du Stimson Center, un institut de recherche à Washington.
It releases the energy that held the atom together.
Cela libère l'énergie qui tient ensemble l'atome et c'est cette énergie qui constitue la force explosive. C'est l'énergie libérée par réaction qui est utilisée dans les réacteurs électronucléaires. Elle apparaît sous forme de chaleur et, comme pour la combustion thermique, sa conversion en électricité a un rendement limité, près de 35% pour les réacteurs actuels.
Only the U-235 will provide the explosive potential.
Seul l'U-235 fournira le potentiel explosif. L'uranium naturel, l'uranium que l'on extrait du sol, est moins de 1% de l'U-235. Donc, l'U-235 doit être purifié ou enrichi. C'est là que les centrifugeuses entrent en jeu, dit l'ancien négociateur du nucléaire, Robert Einhorn, de la Brookings Institution. D'abord, prenez l'uranium sous la forme d'un gaz. Alimentez les centrifugeuses, faites-les tourner très vite, et différents isotopes d'uranium se détachent selon leur poids. Mais ils se détachent seulement un tout petit peu. Ainsi, cet uranium légèrement enrichi va dans une autre centrifugeuse pour une plus grande séparation et puis dans une autre centrifugeuse, ainsi de suite. Combien de fois dépend de ce qu'on veut en faire? De nouveau, Robert Einhorn. Si vous enrichissez à 3 ou 4% l'uranium-235, vous pouvez l'utiliser pour fournir du combustible à un réacteur nucléaire. Mais si vous l'enrichissez à 90%, vous pouvez alors l'utiliser pour fabriquer une bombe atomique. L'Iran a construit un réacteur nucléaire qui peut fonctionner avec de l'uranium naturel au lieu de l'uranium enrichi, ce qui inquiète les experts parce que ce genre de centrale, appelé réacteur à eau lourde, peut transformer l'uranium en plutonium. À la différence de l'U-235 qui se sépare quand il est atteint par un neutron, explique Einhorn, l'U-238, le genre qui compose une bonne partie de l'uranium naturel, absorbe le neutron et le transforme en plutonium. Quand vous alimentez un réacteur de ce genre à l'uranium naturel, il produit une quantité significative de plutonium dans le carburant usé. Ce qui inquiète aussi, c'est que ce genre de réacteur qui a été utilisé par un certain nombre d'autres pays, doté maintenant d'armes nucléaires pour commencer leur programme d'armement nucléaire. Le réacteur à eau lourde peut également produire des produits chimiques utilisés pour traiter le cancer avec des radiations. Avec quelques changements, il peut encore fabriquer des produits chimiques, mais produire beaucoup moins de plutonium. Apporter ces changements et comment, c'est partie intégrante de l'accord qui ralentira le processus de fabrication d'une bombe A en Iran, au moins d'un an, ce qui donnerait au monde assez de temps pour réagir. Barry Blackman du Stimson Center de Washington met l'accent sur trois des facteurs importants. Vous devez vous débarrasser du stock d'uranium partiellement enrichi. Ensuite, vous devez réduire le nombre de centrifugeuses. Et troisièmement, vous voulez vous assurer qu'ils ne développeront pas des centrifugeuses plus sophistiquées parce que celles qu'ils utilisent maintenant sont une version plus primitive et elles sont plus lentes. Des centrifugeuses plus rapides, cela signifie moins de temps pour fabriquer une bombe et une autre source de soucis pour le monde.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Watson. Au micro, Camille Grosdidier, retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet. Et surtout, très bonne journée.
au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anne Robertson. Au sommaire en ce jeudi 2 avril 2015.
Nigeria, le président Barack Obama a exhorté à la fois le gagnant et le perdant des élections présidentielles à œuvrer de concert pour unifier le pays.
En République centrafricaine, première comparution mercredi du ministre du Tourisme, Romaric Vomitiade.
Le gynécologue congolais Denis Mukwege et son combat contre les sévices sexuels en République démocratique du Congo ont fait l'objet d'un documentaire.
C'était aussi montrer un docteur africain exemplaire qui, depuis 15 ans, essaye de réparer ces femmes et de les réparer dans tous les sens du terme, de les réparer, comme on dit en anglais, healer, comme un guérisseur.
On entendra le réalisateur belge Thierry Michel.
Le projet du président burundais Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat suscite de vives tensions dans le pays.
Nucléaire iranien, les discussions marathon se poursuivent à Genève.
Et ici aux États-Unis, la Californie adopte de nouvelles mesures pour lutter contre une sécheresse sans précédent.
La directive du gouverneur Jerry Brown fixe comme objectif une réduction de 25% de la consommation du précieux liquide sur les 9 prochains mois.
Tous les détails avec Jean-Roger Bion, mais tout d'abord, le journal.
Le président Barack Obama a exhorté à la fois le gagnant et le perdant des élections présidentielles au Nigeria à œuvrer de concert pour unifier le pays. Monsieur Obama a appelé mercredi le président élu, Muhammadu Buhari, ainsi que le président sortant, Goodluck Jonathan. Il a félicité Monsieur Buhari pour sa victoire et Monsieur Jonathan pour avoir concédé pacifiquement l'élection.
Le président Obama a souligné que les États-Unis continueront à soutenir le Nigeria, confronté à de nombreux défis, dont la menace posée par le groupe extrémiste Boko Haram. Monsieur Buhari a promis que son gouvernement n'épargnerait aucun effort pour vaincre Boko Haram.
Les peines de mort infligées à des soldats accusés de complicité dans la tentative de coup d'État en Gambie en décembre 2014 sont une violation du droit à la vie et à un procès juste et équitable. C'est ce qu'a déclaré hier l'ONG de défense des droits humains Amnesty International. 3 militaires ont été condamnés à mort et 3 autres à la réclusion à perpétuité suite à un procès à huis clos lundi. Amnesty International estime que la situation des droits humains demeure catastrophique en Gambie.
En République centrafricaine, première comparution mercredi du ministre du Tourisme, Romaric Vomitiade, devant le tribunal de grande instance de Bangui. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme et une amende de 500 000 francs CFA contre le membre du gouvernement en détention préventive depuis plusieurs semaines. Henri Francisque.
Le réquisitoire du procureur est tombé au terme d'un procès qui a duré toute la journée. Au moins 6 témoins, dont un à charge, ont été appelés à la barre. Et le débat a été riche en contradictions. Romaric Vomitiade est poursuivi pour attentat à la pudeur, consommé avec violence, acte de pédophilie et empêchement à l'émancipation de la jeune fille. Le ministre a plaidé non coupable et sa défense a parlé d'un pur montage pour nuire à sa carrière politique. 5 ans d'emprisonnement ferme et 500 000 francs CFA d'amende requis par le procureur n'ont pas satisfait l'avocat de la jeune fille, qui lui réclame 20 millions d'amende. Le verdict est attendu le 8 avril prochain. Romaric Vomitiade est accusé d'avoir abusé fin février d'une fille de moins de 18 ans alors qu'il était à la tête d'une mission de consultation populaire à Yaloké, localité située à quelques 220 km au nord-ouest de Bangui.
Le projet du président du Burundi, Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue en juin, suscite de vives tensions dans le pays et dans la sous-région. La semaine dernière, 79 membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, l'ont interpellé dans une missive, l'invitant à ne pas se représenter.
L'opposition burundaise, appuyée par les organisations de la société civile, a menacé de descendre dans la rue si le président est désigné par son parti comme candidat à un troisième mandat.
Des hommes armés ont attaqué l'université de Garissa dans le nord-est du Kenya. Selon le correspondant de la Voix de l'Amérique sur place, des explosions et coups de feu ont retenti. Des soldats kényans sont déployés sur les lieux. La chaîne de télévision CNN, qui cite la Croix-Rouge, évoque une trentaine de blessés et jusqu'à 8 morts. Ces chiffres restent à confirmer.
Et puis le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a exhorté les membres de la diaspora kenyane à aider le tourisme chez eux, en rassurant les gens quant à la sécurité au Kenya, malgré une série d'attaques perpétrées par des extrémistes. Il a également fustigé les mises en garde des pays occidentaux contre les voyages dans son pays. Michel Joseph.
Le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par les attentats du groupe islamiste somalien Al-Shabaab, notamment le siège du centre commercial de Westgate à Nairobi, qui a fait 67 morts en 2013, ainsi que les attaques sanglantes près de la frontière kényane. Intervenant à une conférence de la diaspora kényane sur l'investissement, le président Kenyatta a dit que les Kenyans qui vivent à l'étranger devraient être les premiers diplomates de leur pays, en faisant du lobbying pour ses parcs safaris et plages sur l'océan Indien. Concernant les communiqués invitant les voyageurs à faire attention au Kenya ou à éviter ce pays à cause des risques d'actes terroristes, le président Uhuru Kenyatta a dit ne pas avoir entendu d'avis de ce genre au sujet de Paris, qui a pourtant été récemment victime d'attaques terroristes. Il fait allusion ici aux attentats de janvier contre Charlie Hebdo et une épicerie juive dans la capitale française et qui avait fait 17 morts. Pour le gouvernement de Nairobi, de telles mises en garde n'ont fait qu'enhardir les terroristes et ne reflètent pas ces succès dans la prévention de tels attentats.
Selon les Instituts nationaux de la santé aux États-Unis et l'Institut de recherche de l'armée Walter Reed, le vaccin expérimental VSV-Zeboff contre le virus Ebola a donné des résultats très positifs. Ce vaccin, qui a été testé ces derniers mois par les hôpitaux universitaires de Genève, a engendré une réponse immunitaire chez les quelques 150 volontaires à qui il a été injecté.
Ces personnes ont produit des anticorps capables de neutraliser le virus, a expliqué la professeure Claire-Anne Sigrist, responsable du Centre de vaccinologie des hôpitaux universitaires de Genève. En revanche, les chercheurs ignorent encore si le vaccin constitue une protection pour l'être humain. Des études d'efficacité sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé doivent maintenant être menées en Afrique, dans les pays où sévit encore le virus.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry va rester en Suisse au moins un jour de plus pour continuer à négocier avec l'Iran sur l'avenir du programme nucléaire de Téhéran. Nous continuons à faire des progrès, a déclaré la porte-parole du département d'État Murray Harf à Lausanne, en reconnaissant qu'il n'y a toujours pas d'accord.
Les négociateurs de l'Iran et des six grandes puissances de la planète ont discuté toute la journée mercredi pour combler les lacunes restantes dans l'accord cadre visant à freiner le programme nucléaire de l'Iran en échange d'un allègement des sanctions internationales contre Téhéran. Les deux parties étaient censées se mettre d'accord d'ici à la date butoir du 31 mars, mais elles ont convenu de poursuivre leurs discussions.
Des dizaines de réfugiés fuyant le Yémen en guerre n'ont pas trouvé de meilleure destination que les côtes de la Somalie. Depuis plus de deux décennies, ce sont plutôt les Somaliens qui traversaient le golfe d'Aden vers le Yémen pour fuir le chaos dans leur pays. Bagassi Koura.
Selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés cité par l'AFP, les premiers groupes de Yéménites fuyant le conflit dans leur pays sont arrivés sur les côtes nord de la Somalie, dans la région du Somaliland, autoproclamée indépendante depuis 1991, et celle très largement autonome du Puntland. Ces deux régions ont été largement épargnées par la guerre civile qui a plongé le centre et le sud de la Somalie dans le chaos depuis la chute en 1991 de l'autocrate Siad Barre. Le HCR en Somalie a indiqué avoir récupéré samedi 32 réfugiés arrivés dans le port de Berbera dans le Somaliland. D'autres réfugiés ont été signalés arrivant sur les côtes de Djibouti, frontalier du Somaliland. Selon l'AFP, les agences humanitaires ont mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire au Yémen, pays qui héberge plus de 238 000 réfugiés somaliens, selon le HCR.
Ici aux États-Unis, la Californie est victime d'une sécheresse sans précédent, une situation qui a contraint son gouverneur à ordonner une réduction dramatique de l'utilisation de l'eau dans l'ensemble de l'État. Jean-Roger Bion.
La directive du gouverneur Jerry Brown fixe comme objectif une réduction de 25% de la consommation du précieux liquide sur les 9 prochains mois. C'est dans une station de ski des montagnes de la Sierra Nevada que M. Brown a lancé son appel. La raison, c'est la fonte annuelle des neiges de ces montagnes qui alimentent les cours d'eau et nappes souterraines de la Californie. Or, cette année, il y a très peu neigé, Nous nous tenons sur la terre ferme là où nous serions en temps normal, sur 1,50 m de neige, a fait remarquer le gouverneur Brown hier. Pour parvenir aux économies d'eau nécessaires, le gouverneur Brown a ordonné l'introduction dans les jardins et parcs publics de la Californie d'espèces végétales plus résistantes à la sécheresse. Les Californiens sont, pour leur part, encouragés à remplacer leurs appareils électroménagers par des modèles plus économes en eau. Par ailleurs, le gouverneur Brown a introduit en procédure d'urgence des mesures devant injecter $1 milliard dans des projets hydrauliques et d'appui aux communautés mises en difficulté par la sécheresse.
On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Jean-Roger Bion.
L'Office congolais de contrôle a encore brûlé des produits avariés à Lofou. Au total, 2 tonnes de produits défectueux ont été détruits. Théophile Souloubanzi est le chef d'antenne de l'Office congolais de contrôle à Lukala.
Il y a 1900 kilos de soupe natolo, de liqueurs en sachet, interdits par le gouvernement. Nous sommes là pour sécuriser la population congolaise, en dépit de la répétitivité des infractions que les acheteurs, que les agents du marché posent.
Théophile Souloubanzi, chef d'antenne de l'Office congolais de contrôle à Lukala, au micro de nos confrères de Top Congo FM. Le gouvernement du Mali et l'Agence spécialisée des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO, ont annoncé mercredi un programme de relance de la production agricole dans le nord du pays, gravement affecté par les attaques de groupes armés. Un projet de 5 millions de dollars de la FAO, dont le siège est à Rome, doit financer les moyens de production des familles dans les régions de Tombouctou, Gao et Mopti, dans le nord du pays, a indiqué mercredi l'organisation dans un communiqué. Et une nouvelle application pour smartphone a été lancée mercredi en Afrique du Sud pour encourager les touristes à emprunter les pas de Nelson Mandela, 25 ans après sa sortie de prison. L'application appelée Madiba's Journey, le nom de clan de Mandela affectueusement repris par la plupart des Sud-Africains, est pour l'instant téléchargeable gratuitement en anglais pour des appareils fonctionnant sous iOS, Apple et Android.
Et maintenant, les sports en compagnie de Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Camille.
Alors, il y a du rififi dans le football béninois?
Oui, dans l'affaire du retrait de l'agrément à la Fédération béninoise de football, le ministre béninois des Sports s'est expliqué devant la presse. Les explications avec Élisée Mpatine.
L'une des conséquences de ce retrait, c'est la suspension des championnats de Ligue 1 et 2, comme nous l'explique Safiou Afo, ministre de la Jeunesse des Sports du Bénin.
La suspension du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, c'est une nécessité pour des raisons de sécurisation, pour éviter des troubles. Parce qu'il y en a qui sont pour la décision, il y en a qui sont contre. S'ils vont s'affronter sur le terrain, c'est la responsabilité de l'État.
La suite, c'est également une feuille de route, un plan, sans doute pour sortir le football béninois de cette situation. Farouk Soumanou, président du Fonds d'aide pour le sport.
Le ministre de la Jeunesse va rencontrer tous les acteurs de toutes les tendances, de tous les camps. Après cela, le ministre procédera à l'installation du comité national de normalisation. Et c'est ce comité qui aura un cahier des charges et un délai bien déterminé pour mettre les différentes commissions techniques en place afin de faire des propositions concrètes.
La réaction du comité de la Fédération béninoise de football est attendue. Boycon, Élisée Mpati, La Voix de l'Amérique.
Le président de la Fédération internationale de cricket a démissionné.
Oui, Mustapha Kamal a empêché de remettre le trophée de vainqueur de la Coupe du Monde à l'Australie après avoir affirmé qu'un match avait été arrangé, a démissionné donc ce mercredi. Selon l'AFP, Kamal a affirmé avoir reçu l'ordre de s'excuser pour avoir déclaré que le quart de finale du mondial remporté par l'Inde aux dépens du Bangladesh avait été arrangé. Ces allégations ont été contestées par David Richardson, le chef de l'exécutif au sein de l'ICC, la Fédération internationale de cricket. Et pour terminer, Camille, quelques résultats du championnat nord-américain de basketball professionnel, la NBA.
Toronto a expédié Minnesota 113-99. Une mauvaise soirée pour Sacramento, battu par Houston 115-111. Brooklyn a eu raison de New York, mais par seulement un panier, le score 198. Boston, par contre, n'a pas eu à se fatiguer pour triompher d'Indiana 187. Défaite humiliante pour Detroit 102-78 face à Charlotte. Les Washington Wizards se sont bien débrouillés, battant Philadelphie 106-93. Les Spurs de Tony Parker ont rossé Orlando 103-91. Un match très serré entre Dallas et Oklahoma City qui s'est traduit par la victoire de Dallas 135-131. Et Milwaukee s'est débattu face à Chicago, l'emportant de justesse par 95-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grodidier avec vous pour présenter les dossiers du jour. On commence avec le Bénin où la mise en vigueur du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO depuis le début de l'année 2015 impose un renchérissement des coûts de cession des produits importés. Mais que fait l'État béninois pour permettre à l'économie béninoise d'en tirer le meilleur profit et adoucir la pilule aux opérateurs économiques qui devront faire face à de nouvelles charges? Eh bien, la réponse à travers ce reportage de Peggy Ludovic Dagva de Cotonou.
L'économie béninoise se doit désormais de s'affranchir de son indolence légendaire pour devenir compétitive face aux nouvelles réformes entreprises sur le marché sous-régional, dont la plus grande est la mise en vigueur depuis janvier 2015 du tarif extérieur commun TEC dans l'espace CEDEAO. Conscient de l'enjeu, l'État béninois a déjà pris certaines dispositions pour y faire face, nous dit ici le directeur général du développement industriel au ministère béninois du commerce, Eddy Santos.
Le Bénin a pris ses dispositions pour commencer par faire de la sensibilisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État n'est plus du secteur productif aujourd'hui. Ce sont les privés qui produisent. Donc le rôle de l'État, c'est de mettre à disposition les conditions pour que le secteur productif puisse produire. Donc l'élément qu'on a mis en premier, c'était déjà de sensibiliser le secteur productif pour que les gens sachent. Ceux qui étaient par exemple dans l'activité de l'importation du yaourt, qui sachent qu'à partir du 1er janvier 2015, ce serait plus bénéfique pour eux de fabriquer le yaourt sur place que d'en importer. Parce que ça sera plus compétitif ce qui est importé d'ailleurs.
Avec la nouvelle donne, les droits de douane connaîtront une augmentation de 35% pour l'importation de certains produits comme la volaille, les pommes de terre et les produits textiles, ce qui nécessitera une augmentation de la production locale dans ces secteurs au niveau des pays de la CEDEAO. Afin d'éviter de continuer à les importer, le Bénin peut-il y faire face? Réponse du directeur général du développement industriel, Eddy Santos.
Le Bénin est totalement capable d'aller en concurrence sur le marché régional. Et là, je le dis d'autant plus que nous avons toujours sous-estimé nos possibilités et nous pensons à tort que nous n'avons pas les potentialités d'aller en concurrence avec des pays que nous traitons comme des pays qui sont leaders dans notre communauté. C'est pas vrai. Je peux vous dire par exemple qu'à la date d'aujourd'hui, malgré tout le mal dont on dit de notre industrie, le Bénin n'est pas le plus mauvais exportateur à travers le schéma de libéralisation des échanges. C'est que le Bénin identifie les produits pour lesquels il a un bon potentiel et que le secteur productif investisse sur ces produits-là.
Maurice Biamenou est opérateur économique béninois. Il n'est pas d'accord avec la façon dont l'État gère ce dossier.
Vous ne pouvez pas faire le bonnet de quelqu'un contre sa volonté. Qu'il y a aujourd'hui le regroupement des opérateurs économiques en dehors de la Chambre du commerce et d'industrie, il y a le Conseil national du patronat. Donc je souhaiterais vivement que les regroupements professionnels des opérateurs économiques, les structures fêtières comme la CCB, comme et le patronat, puisse être impliqué et qu'il y ait donc des délégués de ces structures dans le comité de management et de suivi donc de ces réformes pour que dès que les intérêts des jeunes seraient donc menacés, ils puissent donc revenir à la charge pour redresser le tir.
L'avènement du TEC ouvre la voie à la cherté des produits importés. Une autre paire de manches à régler pour les autorités de tutelle. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Camille Grodidier avec vous. Le gynécologue congolais Denis Mukwege et son combat contre le viol et les exactions sexuelles en République démocratique du Congo ont fait l'objet d'un film. La sortie de ce documentaire belge réalisé par Thierry Michel et Colette Braekman est prévue ce mois-ci. Il s'appelle « L'homme qui répare les femmes, la colère d'Hippocrate ». Thierry Michel est revenu sur les raisons de ce film au micro de Nicolas Pineau.
Oh, c'était d'abord un film qui me semblait indispensable parce qu'il allait témoigner non seulement de la cause de ces femmes violées avec extrême violence, donc de ces femmes humiliées, parfois massacrées en République démocratique du Congo, dans la partie est du pays, mais c'était aussi montrer un docteur africain exemplaire qui, depuis 15 ans, essaye de réparer ces femmes et de les réparer dans tous les sens du terme, de les réparer, comme on dit en anglais, healer, comme un guérisseur, qui doit réparer les corps, réparer les âmes et leur donner la capacité de renaître à elles-mêmes, c'est-à-dire de faire leur travail de résilience ni pour certains d'ailleurs de devenir des activistes. Voilà, c'était, me semblait que l'Afrique avait besoin qu'on parle à la fois de ce qui est tragique, mais aussi de cette capacité de certains Africains d'être des modèles, des exemples, des héros, et de fédérer toutes des forces comme ça de communautés entières de femmes pour un changement social.
Vos films ont souvent suscité des réactions négatives de la part des autorités congolaises. Cette fois-ci, le tournage a-t-il été plus facile ?
Oui, absolument. Alors que j'avais été interdit, arrêté, expulsé, et que j'avais été même traîné en justice en Europe. On sait que j'avais gagné à cause d'un de mes derniers films sur l'assassinat de Floribert Chebeya, hein, un grand militant de la cause des droits de l'homme. Cette fois-ci, j'ai eu toute facilité pour faire ce documentaire. Je remercie les autorités qui m'ont assuré cette... Voilà, cette situation de confort de travail.
On en parle souvent chaque année. Est-ce que, selon vous, Denis Mukwege mérite le prix Nobel de la paix ?
Je pense, oui. Si on pense que l'Afrique a droit aussi à être nobelisable, sûrement parce qu'en plus, c'est non seulement un homme intègre, un homme de conviction, c'est un homme extrêmement courageux. Et contrairement à bien d'autres hautes personnalités, on va dire, d'activistes de par le monde qui ont dû choisir l'exil, lui a été victime de tentatives d'assassinat. Il a perdu un de ses plus proches dans une de ses tentatives. Il a encore été très récemment victime d'une autre tentative et il tient contre vent et marée. Il veut rester au Congo, il veut continuer à soigner ces femmes auxquelles il a consacré sa vie et ne pas partir pour un exil doré.
Le réalisateur belge Thierry Michel, rappelons que l'action du docteur Denis Mukwege avait déjà fait l'objet d'un film Congo, un médecin pour sauver les femmes, film documentaire sénégalais réalisé par Angèle Diabang, sorti en 2014.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano, à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Camille Gros-Didier, pour Le Monde aujourd'hui, le poivron est la principale production agricole de la région de Diffa au Niger. Mais la milice djihadiste Boko Haram allait se servir chez les producteurs pour financer sa guérilla et aujourd'hui, les autorités ont interdit le commerce du poivron dans la région. Producteurs et vendeurs ne savent plus où donner de la tête. Idriss Fall s'est rendu au marché de Diffa pour recueillir l'avis de deux vendeurs. On écoute Maloussou Barma et Boni Bouama.
Tout le monde, les gens qui vendent les poivrons, ils ont un problème. Parce que c'est les poivrons seulement, ils vendent. Ils achètent quelque chose à manger à la maison. Quoi. Maintenant, les poivrons, ils sont arrêtés. Les gens, ils sont dit ne peuvent pas vendre. C'est pour cela que tous les gens, ils ont un problème maintenant.
Comment est-ce que vous faites pour garder le poivron, par exemple, pour qu'il ne se gâte pas?
Maintenant, on dépose là-bas, au village. Au village là-bas, on a déposé là où on a acheté des poivrons. Parce qu'on a dit, ne vient pas même à Diffa. C'est pour cela qu'on a mis au plastique, on a déposé là-bas.
À peu près, vous avez perdu combien d'argent depuis?
Trop. Beaucoup. Avant, on vendait le poivron à 8000 naira. Mais maintenant, ça devient à 5000 naira. C'est comme ça, on a perdu 3000 naira.
Avec 5000 naira, vous ne pouvez pas les vendre.
Non, on vend si tu es tellement précis, quoi. Tu vas vendre pour acheter quelque chose à manger.
Le monde, le
marché de poivron, vous avez vu de vous-même vu que depuis qu'on a interdit la vente, la commercialisation du poivron dans la région de Diffa, voilà, vous avez vu, il y en a plein de poivrons au marché. Et ceux qui ont amené les produits n'ont pas pu vendre pour vraiment acheter de quoi manger. Mais ils attendent toujours l'autorité pour qu'on lui dise de les amener aujourd'hui ou demain. Ils sont toujours dans l'attente. Mais ok pour que reprendre la commercialisation.
Mais vous reprendre la commercialisation vers où?
Que le poivron, au-delà du Nigeria, on amène ça à Zander, on amène ça à Maradi, même à Niamey, la capitale, on envoie du poivron pour vendre.
Donc ils attendent quoi?
On attend les autorités comme c'est eux qui ont pris la décision. Ils savent que la région de Diffa, c'est une région de production de poivron. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui attendent, qui souffrent, vivent le calvaire. Même dans les villages, ils nous demandent à quand l'autorité va donner les ordres. On attend voir. Mais vraiment, il faut qu'ils voient cette situation et nous laissent vraiment faire notre commercialisation du poivron.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, tout sur le verdict des urnes au Nigeria, analyse et commentaires de nos invités, un scrutin d'ores et déjà jugé démocratique par l'Union africaine, mais des interférences politiques ont quand même été notées. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h08.
Camille Grosdidier, dans les négociations en vue d'un accord cadre sur le nucléaire iranien, les négociateurs ont eu à beaucoup parler de centrifugeuses, d'uranium enrichi ou encore de réacteurs à eau lourde. Alors, que signifient tous ces termes et quelle est leur importance? Quelques éléments de réponse avec Lionel Gaïma.
L'uranium se présente sous deux formes ou isotopes, l'U-235 et l'U-238 qui est un peu plus lourd. La réaction consiste à casser des noyaux lourds comme ceux de l'uranium-235 ou du plutonium-239 sous l'impact d'un neutron. Barry Berkman du Stimson Center, un institut de recherche à Washington. Cela libère l'énergie qui tient ensemble l'atome et c'est cette énergie qui constitue la force explosive. C'est l'énergie libérée par réaction qui est utilisée dans les réacteurs électronucléaires. Elle apparaît sous forme de chaleur et, comme pour la combustion thermique, sa conversion en électricité a un rendement limité, près de 35% pour les réacteurs actuels.
Only the U-235 will provide the explosive potential.
Seul l'U-235 fournira le potentiel explosif. L'uranium naturel, l'uranium que l'on extrait du sol, est moins de 1% de l'U-235. Donc, l'U-235 doit être purifié ou enrichi. C'est là que les centrifugeuses entrent en jeu, dit l'ancien négociateur du nucléaire, Robert Einhorn, de la Brookings Institution. D'abord, prenez l'uranium sous la forme d'un gaz. Alimentez les centrifugeuses, faites-les tourner très vite. Les différents isotopes d'uranium se détachent selon leur poids. Mais ils se détachent seulement un tout petit peu. Ainsi, cet uranium légèrement enrichi va dans une autre centrifugeuse pour une plus grande séparation et puis dans une autre centrifugeuse, ainsi de suite. Combien de fois dépend de ce qu'on veut en faire? De nouveau, Robert Einhorn. Si vous enrichissez à 3 ou 4% l'uranium-235, vous pouvez l'utiliser pour fournir du combustible à un réacteur nucléaire. Mais si vous l'enrichissez à 90%, vous pouvez alors l'utiliser pour fabriquer une bombe atomique. L'Iran a construit un réacteur nucléaire qui peut fonctionner avec de l'uranium naturel au lieu de l'uranium enrichi, ce qui inquiète les experts parce que ce genre de centrale, appelé réacteur à eau lourde, peut transformer l'uranium en plutonium. À la différence de l'U-235 qui se sépare quand il est atteint par un neutron, explique Einhorn, l'U-238, le genre qui compose une bonne partie de l'uranium naturel, absorbe le neutron et le transforme en plutonium. Quand vous alimentez un réacteur de ce genre à l'uranium naturel, il produit une quantité significative de plutonium dans le carburant usé. Ce qui inquiète aussi, c'est que ce genre de réacteur qui a été utilisé par un certain nombre d'autres pays, doté maintenant d'armes nucléaires pour commencer leur programme d'armement nucléaire. Le réacteur à eau lourde peut également produire des produits chimiques utilisés pour traiter le cancer avec des radiations. Avec quelques changements, il peut encore fabriquer des produits chimiques, mais produire beaucoup moins de plutonium. Apporter ces changements et comment, c'est partie intégrante de l'accord qui ralentira le processus de fabrication d'une bombe A en Iran, au moins d'un an, ce qui donnerait au monde assez de temps pour réagir. Barry Blackman du Stimson Center de Washington met l'accent sur trois des facteurs importants. Vous devez vous débarrasser du stock d'uranium partiellement enrichi. Ensuite, vous devez réduire le nombre de centrifugeuses. Et troisièmement, vous voulez vous assurer qu'ils ne développeront pas des centrifugeuses plus sophistiquées parce que celles qu'ils utilisent maintenant sont une version plus primitive et elles sont plus lentes. Des centrifugeuses plus rapides, cela signifie moins de temps pour fabriquer une bombe et une autre source de soucis pour le monde.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, ainsi va Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anna Watson. Au micro, Camille Grosdidier, retrouvez-nous sur Facebook ou notre site internet. Et surtout, très bonne journée!
cœur de l'info.